Bien, bonsoir, merci d'être là pour cet instant critique donc consacré à deux spectacles. On va commencer par parler de The Real Fiction de Cookie Clay, qui malheureusement n'est pas des nôtres, puisqu'elle joue ce soir à Madrid et qu'elle a dû repartir tout de suite. On a assisté à un spectacle hier de 2h30, 2h40, un long spectacle, c'est un format quand même... peu habituel, qui a fait rire, qui a rendu perplexe, qui interroge, qui nous a beaucoup interrogé sur notre statut de spectateur, sur ce qu'on devait faire et sur la façon dont on devait réagir par rapport à ce qui se passait. Je vais demander à Catherine Kinsler, qui a gentiment accepter de réfléchir au spectacle d'hier soir, au déballé, comme ça, de nous faire part peut-être de son analyse, d'une proposition de lecture dont on pourra discuter ensemble par la suite. Puis, dans un second temps, nous aborderons le travail d'Emmanuel Egarmont, qui est ici avec nous, un huitième qui nous a présenté deux fois, dont la dernière fois hier soir. Donc, Catherine, on va commencer par parler peut-être de... Du travail de Cookie. Comment tu as ressenti le travail ?
C'est ce micro-là que je dois prendre. Bonsoir. Est-ce que tout le monde a vu la pièce ? Bon. Pas tout le monde. Bon. Voilà. Alors, je voudrais d'abord dire que cette pièce, oui, était étrangement longue pour une pièce chorégraphique. Elle s'appelle The Real Fiction. Et moi, je proposerais un sous-titre, Raté mieux encore. C'est inspiré d'un texte de Beckett, ou plus ludique, Ratage enrichi. La pièce repose sur un principe très connu, hein, un principe de la mise en question du théâtre au sein même de la scène. Alors bon, on connaît depuis, je ne remonterai pas l'origine du théâtre, mais à l'âge classique, l'illusion de Corneille, et puis plus près de nous, Pirandello, Ce soir on improvise, la pièce de Peter Handke, Outrage au public. Et puis, ça a également été abordé dans le roman, je pense par exemple à W ou Souvenir d'enfance de Georges Perec. Le principe, c'est celui de l'irruption du réel dans le fictif qui finit par troubler l'un et l'autre. On ne sait plus ce qui est réel, ce qui est fictif. Voilà. Alors, je voudrais rentrer dans la singularité de la pièce et dans son détail, d'abord. Alors, l'intrusion du réel dans le fictif qui fait vaciller l'un et l'autre et l'un par l'autre s'effectue par deux procédés. Un procédé très simple, le ratage. Puis, il se renforce, donnant à la pièce une coloration à la fois irrésistiblement comique, on a beaucoup ri, hein, et il faudrait même dire clownesque, je m'expliquerai sur ce terme, et étrangement inquiétante. Grâce à un deuxième procédé également très simple, la répétition. De sorte que, comme on le verra dans la description quand même que je vais donner, que la question de la temporalité est la poutre maîtresse de la pièce. C'est la thèse que je soutiendrai. Je suis venue soutenir une thèse, François. Hein, voilà. La temporalité est la poutre maîtresse de la pièce. Alors, une série d'actions est entreprise par deux interprètes, avec le plus grand sérieux, sur un plateau, action qui en elle-même passe en revue les poncifs les plus casse-pieds de la danse contemporaine. On ne danse pas, on pose des objets, on écrit un compte à rebours, on fait entendre une chanson sur une cassette, on enfile des tennis, on se déchausse, on intervertit des costumes indigents. Qu'est-ce qu'on fait encore ? On manipule... kitsch en plastique fluo, on pose gravement un journal au sol avant d'y remplir un gobelet de Coca-Cola en prenant soin de bien le faire déborder pendant que l'autre interprète fait péniblement les pieds au mur. On fait fonctionner une petite locomotive jouet qui siffle et qui crachote. J'allais oublier la dernière trouvaille, parce que j'ai vu ça au moins trois fois cette année sur un plateau de danse. On gonfle un sac en plastique avec un ventilateur. Ça, c'est le dernier cri. Et le tout évolue sur un plateau blanc où les repères sont fixés ostensiblement au sol par des grosses bandes adhésives noires. On ne peut pas se tromper, on est vraiment sur un plateau de danse. Hein. Et enveloppant le dispositif, apparaît en omniprésence ce qui va apparaître comme le moteur de l'action. Chaque acte est filmé et photographié par des appareils que les interprètes disposent soigneusement et déclenchent à retardement ou par une télécommande. Alors, à première vue, on va assister à une performance super ennuyeuse qui se veut drôle avec quelques gadgets et qui en plus va nous être réassénée sous forme de vidéo à la fin. Ça, c'est ce qu'on prévoit. Hein. Je commence à regarder ma montre. Je sais que la pièce dure 2 heures parce que je l'ai lue sur le programme et toute mon attente s'ordonne autour de la césure qui, inaugurant la projection attendue, me fera enfin entrevoir la fin de la pièce. Bien sûr, il y aura sans doute une petite surprise, on découvrira sur la vidéo autre chose que ce à quoi on pouvait s'attendre. On déjoue à l'attente en montrant qu'on avait peut-être assisté à une répétition, à une séance de travail. Bon. Toujours est-il que cette première vue me projette dans le futur, un futur vers lequel j'aimerais qu'on se hâte un peu plus. La césure se produit bien, mais sous la forme d'une panne, d'un ratage. Alors que l'une des interprètes prend la pause après avoir enfilé une chaussure patin à roulettes, l'autre pose une caméra numérique sur un pied. Immobiles toutes les deux, l'opératrice bougeant seulement les mains, échange de regards inquiets, ça dure longtemps, il y a un problème avec la caméra. Le réel s'introduit. Lumière dans la salle, on consulte le technicien en grand conciliabule inaudible, puis la chorégraphe elle-même. On se décide à faire l'annonce en anglais, bien entendu. C'est un problème de tape, de cassette, on va la remplacer, mais il faut recommencer depuis le début. On range le plateau, etc. Changement à vue. Dès lors, tout est en place. Me doutant qu'il s'agit peut-être d'un jeu, je ne m'inquiète pas trop, mais je laisse tout de même le doute planer dans un petit coin de mon cerveau. Après tout, me dis-je, je saurais si c'était dans la pièce ou pour de vrai, une vraie panne, en regardant ma montre à la fin. J'ai pris mes repères, on a commencé à telle heure, il est telle heure, si la pièce déborde du temps qu'il a fallu pour aller jusqu'à maintenant, c'est que ce n'était pas de la fiction. Bon, on se recale dans les fauteuils et on regarde à deuxième vue. À deuxième vue, l'attente se déplace, ou plutôt se dédouble, à celle lointaine de la vidéo finale, qui viendra jamais d'ailleurs, hein, s'ajoute celle plus proche de savoir comment elles vont refaire tout ça. C'est presque intéressant. On a eu droit à un travail de répétition gratis. Le mécanisme du raté mieux s'enclenche alors. Chaque action est bien réeffectuée, mais comme si elle était infléchie par un clinamen très léger, elle présente un petit ratage supplémentaire. Un objet tombe. La braguette du jean demande à être refermée. Les piles d'un jouet doivent être remplacées, la petite loco. Là. Et la troisième attente se profile alors. Est-ce que la caméra, au moment du patin à roulettes, va s'enrayer comme la première fois ? L'attente alors se déplace, pour se rassurer, du temps vers l'espace. Je balaye le plateau du regard. La totalité des accessoires présents sur la scène n'a pas encore été utilisée. Donc, elle devrait aller un peu plus loin cette fois-ci. Oui, effectivement. On dépasse l'instant critique, mais voilà qu'un petit peu plus loin, il y a encore un problème avec la caméra. Et ce sera la troisième vue. Aux trois attentes que j'ai déjà identifiées, s'en ajoute une quatrième. Les ratages de la deuxième vue vont-ils être mémorisés et reproduits ou corrigés ? On s'embarque dans un immense jeu des sept erreurs. Un exercice pour candidat à l'Alzheimer, en hurlant de rire, bien entendu. Mais oui, il faut encore changer les piles de la petite loco, alors qu'elles sont neuves, non ? Remonter la fermeture éclair du jean. Tout se passe comme si ce qui était d'abord raté s'était introduit dans le script de la pièce que nous voyons maintenant. Et bien sûr, d'autres ratages viennent enrichir les premiers. Jusqu'à troubler le fondement même de notre perception, un ballon de football s'envole vers les cintres comme si c'était son lieu naturel de gravité. On est presque dans l'esthétique transcendantale. Hein. Dire qu'il a fallu écrire 500 pages pour expliquer ça. Je cède ici ma description, car quelle que soit la suite que je ne raconterai pas, elle est malgré l'accoutumance à l'intrication réelle-fictif. On s'habitue à tout. Hein. Ou plutôt à cause d'elle, elle est quand même assez étonnante la suite, car le déroulement finit par jouer tellement avec la frontière entre les deux, le réel et le fictif, que cela devient presque insupportable, tout en restant, c'est le plus fort, hautement comique, avec notamment une impayable séance de karaoké. Il fallait quand même que je la cite, celle-là. Bon, quelle que soit la suite, donc que je ne raconterai pas, l'essentiel du fonctionnement, nous l'avons. Il est sous nos yeux. Premièrement, mise à nu du fonctionnement du théâtre. Un détrucage général. Un détricotage général s'effectue par la vertu même des trucages qui s'introduisent. L'empilement des niveaux de ratage joue à la fois comme écran et comme révélateur de tout ce qui se fait sur le plateau. Rien d'étonnant alors à ce que la fin se déroule dans un chaos théâtral général. Les coulisses s'écroulent, etc. L'un des personnages meurt, même, enfin, mais pas complètement, hein, comme dans Pirandello, etc. Bon, dis pas plus. Deuxièmement, ce n'est pourtant pas du théâtre au sens dramatique du terme, avec du texte. La parole existe, mais ne surgit que très tard, dans les situations qui pourraient être réelles. Est-ce de la... Oui, parce que les corps des interprètes, le corps des interprètes est le seul vecteur signifiant qui puisse valoir. Mais c'est davantage clownerie, celle du grand clown Auguste, qui redécouvre à chaque fois l'univers avec ses spectateurs. Parce que pour elle, à chaque fois, c'est la première fois. Hein. et qui ne se dessaisit jamais d'une foi inébranlable dans les choses, choses qui pourtant le trahissent, d'une confiance absolue dans les cadres de la perception qui pourtant s'écroulent, qui pourtant se tordent et déçoivent avec autant de constance que lui il a de constance à les croire, qui ne s'émeut jamais du ratage, mais qui le porte au niveau d'une œuvre en soi, d'une œuvre d'art. Il faut voir les mines sérieuses et presque enthousiastes, indécrottablement optimistes des deux interprètes devant l'adversité, leur imperturbabilité au sein même du dispositif de perturbation qu'elles ne font pas que subir, mais qu'elles s'appliquent à reproduire fidèlement. Une séquence désopilante consiste à recommencer un trébuchage avec une corde, exactement comme il s'était produit la première fois, spontanément, enfin spontanément entre guillemets, jusqu'à ce qu'il soit parfaitement identique à cette première occurrence. Troisièmement, je terminerai bien sûr par un peu de philosophie et en lâchant des gros mots. Paradoxe de l'autoréférentialité. C'est dur ça, hein ? Du catalogue des catalogues. Il n'y a aucune raison que la pièce connaisse une limite dans l'espace, puisque chaque script englobe le précédent en y incluant ce qui s'y apparemment introduit de l'extérieur. On est plongé dans les antinomies de la cosmologie. Le monde n'a pas de limite, rien n'est à l'extérieur. Mais si, pourtant, il a des limites, puisque tout à l'heure, il n'était pas aussi étendu, et puisqu'à chaque fois, quelque chose vient l'augmenter. Mais aussi, paradoxe du temps, et je terminerai là-dessus, bien entendu, comme je le craignais, mon truc de la montre de tout à l'heure, c'est mes points de repère. Elles l'ont prévu. La pièce déborde sur le temps indiqué sur le programme. C'est ici que Jerez rejoint l'effet terrifiant que produit la lecture, mais seulement la lecture, de la pièce de Peter Handke, Outrage public, et qui révèle le théâtre comme une chambre de torture. Ça marche plus. Bon. Et si le fictif... Là, c'est de la panne. Hein. Ça y est, on va recommencer, là. Hein. Et si ce fictif épuisait le réel? Et si ça ne finissait pas? Si nous étions enfermés dans cette fiction de telle sorte qu'il n'y ait pas de point de fuite, de telle sorte que ce soit sans fin jusqu'à ce que mort s'en suive. Effectivement, à abolir sérieusement la séparation entre les réels et le fictif, non seulement on abolit l'un et l'autre, mais on abolit toute liberté, toute humanité, tout retrait. Expérience terrifiante que les musiciens connaissent bien avec la fiction du music room, un lieu où toute expérience sonore est automatiquement converti en expérience musicale, où aucun son ne peut être sorti du rapport à d'autres sons, où il ne peut pas y avoir de bruit, où tous les sons sont désindicialisés. La réalité virtuelle d'un casque audio qui ne nous permettrait plus d'entendre la musique sur le fond de sa perturbation possible, ou parce qu'il n'y aurait que de la musique, il n'y aurait plus de musique possible. Un monde imperturbable, un monde sans rupture, où tout est miroir, et où parce que tout est miroir, les miroirs ne reflètent plus rien de réel, comme celui que Pérec décrit dans son roman W ou le souvenir d'enfance. Un monde où je ne fais pas que rêver. C'est pas seulement un cauchemar, c'est pire. Un monde où je suis moi-même rêvé. Ce monde-là, c'est celui de l'argument du sommeil, de la seconde méditation de Descartes. On ne peut en sortir que par deux ruptures. Celle du coup de force du sujet qui décide que s'il rêve, eh bien, il pense encore. Et donc il pourra se retirer, esquiver les coups du malin génie qui veut qu'il soit rêvé. L'autre se fait attendre jusqu'à la méditation sixième, car le seul critère qui me fait distinguer le rêve de la veille, c'est la discontinuité du rêve. Nous n'aurons pas besoin de recourir à l'héroïsme du premier, du cogito, pour sortir de l'enfer de la continuité comique de Cookie Jerez, quoique je me demande si parfois un spectateur ne se révolte pas vraiment. Ça doit arriver. Car elle nous offre malgré tout la seconde rupture, celle de la discontinuité, avec bien de la réticence, ça se fait très longtemps attendre, et en traînant les pieds, la délivrance, sous la forme d'applaudissements commandés au public, mais qui signale malgré son entreprise de clown tortionnaire que c'est fini.
Merci Catherine. Oui, donc cette pièce... fonctionnerait essentiellement sur rapport à la temporalité, on dirait sur rapport à l'attente. C'est vraiment, on est toujours en attente de quelque chose. Et peut-être, justement, en tout cas dans la prestation d'hier soir, le moment où, parce qu'il y a une fatigue qui s'installe aussi, elle nous épuise quoi avec ce système. Enfin, on est consentant, bien sûr, puisqu'on reste là. C'est ça qui est assez troublant, c'est qu'elle suffit, elle réussit quand même à susciter chez nous suffisamment de désir pour qu'on attende une énième répétition, alors qu'on sait très bien qu'il n'y a rien de plus à attendre que, qu'un principe qu'on a identifié assez vite. Et là, elle nous installe dans quelque chose d'assez, d'assez trouble et d'assez, d'assez pervers. Peut-être que le moment où ça devient pour nous insupportable, c'est le moment où on n'attend plus rien, justement. Et où là, on se dit, bon, ben, peut-être qu'effectivement, il faudrait bouger, on pourrait sortir. Mais bon, mais c'est, en tout cas, bon, c'est sur la durée, c'est une expérience, c'est bien de cela dont il s'agit. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir par rapport à ce qu'a dit Catherine ou par rapport au spectacle d'hier soir? Vous voudriez poser une question ou faire une remarque complémentaire? Pascal?
Voilà. Hier soir, en fait, en tant que grande consommatrice de danse, j'étais avant le spectacle Cookie Cérès à la prestation de Jean-Luc Caramel. Donc le timing était effectivement très limité et nous sommes arrivés en retard. C'est-à-dire que le spectacle avait déjà commencé.
Je m'en souviens, c'était au début de la seconde répétition.
Voilà. Donc j'étais pas très satisfaite en entrant dans la salle. Mais bon, bon public par principe et par respect des artistes surtout. Je me suis installée et puis donc le processus s'est mis en place. J'ai rapidement effectivement compris ce en quoi Cookie Cérès nous emmenait. Et puis vers la fin, il y a eu aussi cette question des figurants, du public, public truqué ou non. J'ai été à un moment une dame blonde faisant partie des figurants. Étant arrivée en retard, je me suis dit, mais alors je me suis complètement fait avoir. Mais est-ce que je suis arrivée en retard? Est-ce que c'était prévu? Est-ce que c'était prémédité ou non? En sortant, je pose la question à donc une associée des latitudes qui me dit que non. Et j'avoue que ça m'a travaillé toute la soirée.
Bon. Ça, je peux assurer qu'au niveau de l'organisation du festival, on n'avait pas prévu de retenir une partie du public pour le faire rentrer ensuite. Mais le processus... Voilà. En même temps, on pourrait se demander si le processus ne permet pas de toute façon d'entrer n'importe quand.
Ce que je me suis dit à la deuxième répétition. Je dis, bon, apparemment, j'ai pas raté grand-chose.
Voilà. Le sentiment de se faire manipuler. Donc...
Tout à fait, tout à fait. Oui, tout à fait.
Ouais. Et nous,
on
s'est demandé en voyant entrer les
retardataires. Bien sûr.
Voilà. C'est dehors de l'anecdote, mais bon, elle a sa place.
Ah oui, non, mais. Voilà. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose pendant la part?
Moi, je me demande si on peut voir deux fois la pièce elle-même, tout entière. C'est-à-dire que, bon, quand j'ai préparé mon papier, là, parce que j'ai envie de le publier aussi, de l'écrire, je me suis dit, il ne faut pas que je l'écrive trop, parce que ça désamorce. Et donc, alors que si je raconte W, c'est ça la puissance du texte, quand même. Hein, ça, c'est une question que je voudrais poser. Là, on a vraiment la puissance du spectacle qui est ici et maintenant. Et la puissance du texte, c'est que même quand on le relit W, on sait que, bon, comment ça fonctionne, et pourtant, on est à chaque fois pris à la gorge. Alors, je ne sais pas, il faudrait faire l'expérience de revoir la pièce... C'est une question que je me suis posée assez vite dans le spectacle.
Je pense que pour creuser cette analogie, c'est pas la même chose que de savoir ce qui va se passer, de le vivre, de même que c'est pas la même chose que de savoir ce qui est dit dans un texte et de lire ce texte. Le W, on peut raconter W, il est certain que ça ne retirera rien à l'intérêt de la lecture de W. Mais là, je dirais qu'en même temps, même en racontant la pièce, quelqu'un qui n'a pas fait l'expérience d'assister au spectacle... n'a pas fait l'expérience de la durée, justement. Bon, il y a aussi un déficit de vécu qui fait qu'on ne peut peut-être pas se hisser non plus à la hauteur de l'objet là, dont on parle, je crois.
Je pense aussi, parce que la durée, oui, si ma thèse est soutenable, effectivement, on devrait pouvoir réeffectuer cette expérience à la fois d'attente, déçue, d'attente, de la déception de l'attente, etc. Oui, tu as raison.
Moi, j'étais très, très admiratif de la rigueur de la machine, hein, hier, en particulier, je veux dire, bon, la précision que ça demande à la fois dans la construction, dans l'exécution. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, puisqu'elles ne sont pas là, mais enfin, on en parlait hier soir avec elles, il se trouve que dans ce spectacle, il y a eu des ratés qui étaient vrais. C'est-à-dire qu'elles ont eu hier soir des problèmes techniques, de vrais problèmes techniques, pendant le... Bon, que nous, on n'a peut-être pas su identifier en tant que spectateur, parce qu'on finissait par plus savoir où ce qui en était. Et donc, il a fallu aussi qu'elles s'adaptent et qu'elles réagissent comme prises à leur propre piège, parce que bon, c'est tellement... Bien, l'heure tourne. Je voudrais qu'on parle également du travail d'Emmanuel, ici présent. Alors, tout à fait différent. Là, on bascule dans un autre univers. Un solo... alors esthétiquement, on dira tout à l'heure si je me plante, voilà. Mais en tout cas, bon, esthétiquement très marqué années 60. D'ailleurs, je demanderai pourquoi, parce que je ne sais pas par rapport à cette question, effectivement, du rapport à la solitude, du rapport à l'isolement. Du rapport des restes d'animalité qui travaillent socialement instruit, mais qui peut-être se redécompose à l'expérience de la solitude, enfin bon, quelque chose de cet ordre-là. Là aussi, je propose qu'on commence par peut-être écouter l'analyse qu'on propose Catherine, et puis ensuite on en parle.
Oui, d'accord.
Merci Emmanuel de me laisser commencer le show. C'est pas une analyse. C'est pas une analyse, c'est une série de... Enfin, voilà ce que ça m'inspire. C'est plutôt sur ce mode-là. Alors, cette pièce, alors, je crois que... Moi, je dirais 1 sur 8. Non pas 1 huitième, peut-être. Hein. Bon. D'après le texte que vous avez écrit, mais bon. Cette pièce... évolue dans une sorte d'étouffement, paradoxalement obtenu par une danse, une vraie danse, agile, souple, souvent fluide. Et pendant la pièce, j'ai constamment pensé, alors vous savez, je m'amuse à donner des sous-titres pour condenser ma pensée, j'ai pensé à l'un des plus beaux alexandrins de la poésie de langue française, écrit par Mallarmé, « Le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui ». Sauf que le glacier ici n'est pas transparent. Ni lumineux, il est plutôt opaque et ordinaire, mais les vols, on voit bien qu'ils n'ont pas fui. Et la pièce va embarquer le spectateur dans une tentative d'envol, de fuite, tentative qui échoue. Voilà, c'est comme ça que je perçois votre pièce. Le deuxième paradoxe, qui est analogue au premier, c'est la forme très classique de la pièce ABA. Une danse qui d'abord avoue son vocabulaire classique, tout au début, les arcs des bras, les étirements des jambes, et qui revient, mais assombrie à la fin, ce vocabulaire. Mais cette danse initiale est tout de suite frappée d'une sorte d'extériorité, comme si le danseur assistait de l'extérieur au mouvement de l'un de ses membres, qu'il déclenche parfois d'une poussée, d'une pression, ou qu'il accompagne avec un autre de ses membres, comme si ce corps-là ne s'appartenait pas, et qu'ils se regardaient. Le rôle et la place des mains m'ont semblé importants, très impressionnants, remarquables d'expression et de dessaisissement en même temps. Parce que les mains, c'est fait pour saisir, on a l'impression chaque fois qu'elles sont dessaisies, de désespérance. Donc je trouve qu'un renfermement profond transpirait de cette extériorité. Et puis, un moment d'espoir, un moment d'explosion rapide où le corps semble se libérer, on parvient à une sorte d'état de grâce à un moment. Un point d'orgue dont on sent bien qu'il est le point d'équilibre, de basculement de toute la pièce. Le danseur, habillé très ordinairement d'un costume complet veston anthracite, comme l'humeur de l'une des chansons de Gainsbourg qui l'accompagne, et d'un pull gris, eh bien, il se dénude. Rassurez-vous, on ne va pas assister à une scène mille fois vue sur les plateaux de danse contemporaine. Il ôte tout simplement son pull et il se retrouve torse nu, dans une belle lumière, c'est d'une grande beauté, pas seulement parce que Emmanuel est beau, mais surtout parce que ce corps nu est émouvant. Il a été constamment entravé, dépossédé, oblitéré par le gris qui l'a en quelque sorte pas seulement couvert, mais recouvert pendant toute la durée qui a précédé et dont il semble sur le point de se libérer. Mais non, les choses reviennent dans l'ordre. L'ordre aliéné, il remet son pull, revient à une danse à la fois habile, fluide, convenue et aliénée. une danse qui lui échappe, qui n'est pas vraiment de lui. Alors j'ajouterai un mot sur l'accessoirisation. C'est de la danse. Alors j'ajouterai un mot sur l'accessoirisation, assez sobre, mais qui a son importance parce qu'elle donne à la pièce son côté théâtral. Je ne vais pas passer tout en revue. Le seul élément saillant du costume sont les chaussettes dépareillées, une rouge et une noire, comme celles que l'on puise n'importe où dans le tiroir le matin sans y penser, et qu'on garde ainsi parce que personne n'est là pour nous dire que ça ne va pas. C'est une pièce muette où un homme, effectivement jeune, mais que j'imagine jeune, même si ce n'était pas vous qui l'a dansé, et malgré une autre chanson de Gainsbourg, « L'automne de la vie », mais je crois que cette jeunesse est importante justement parce qu'elle rend l'ambiance automnale d'autant plus poignante. Donc un homme jeune se débat entre un écran de télé, une chaise, une tapisserie complètement ringarde qui fait penser à une chambre d'hôtel du début des années 60, effectivement. Il semble pouvoir se sortir d'un plateau noir délimité par de l'adhésif blanc, mais non, il se rencoigne entre ces deux cloisons tapissées, formant un angle dont il enfouit la surface sous des papiers froissés, coin que le danseur ferme finalement par la bande adhésive qu'il décolle du pourtour du plateau et qu'il vient fixer en croisillon comme un périmètre de sécurité sinistre, ou plutôt comme des scellés funèbres sur les vols qui n'ont pas fui. On sent, malgré la danse qui se poursuit quelque temps après, que ce corps ne se libérera pas. Alors bon, je passe la banane, les choses... Bon, il y a d'autres accessoires. Alors, le choix de la musique de Gainsbourg, il faut aussi en parler, je crois. Hein. Bon, il y a des chansons superbes que nous connaissons. Alors, là, je crois que... Bon, moi, je suis très sensible à la musique et je crois que par moments, on écoute trop Gainsbourg. C'est la critique que je vous ferai. Enfin, en tout cas, c'est une question que je me pose. Les chansons ont tendance parfois à écraser la pièce et elles surviennent à des intervalles peut-être un peu réguliers. On les attend. Il y a une scansion qui finit par être attendue. Et sinon, bien écoutez, je trouve que cette première pièce est très travaillée et très émouvante. Voilà.
Merci. Je ne sais pas, juste pour dire quelque chose après. Je pense que vous avez raison déjà de partir, de ne pas partir justement sur une analyse, parce que c'est exactement ce que je redoute, c'est qu'on analyse tout ce que j'ai pu mettre en scène. Et en fait, c'est justement, pour moi, c'est justement là qu'est la clé de mon travail, c'est de pouvoir proposer donc différentes scènes avec différentes propositions de mise en scène, d'analyse, mais de justement de jamais les analyser. Et voilà, donc ça c'est déjà un premier point qui pour moi est assez... vous avez assez saisi, je crois, cette partie. Voilà, ensuite, je sais pas... Gainsbourg, pour moi, c'est une évidence pour beaucoup de choses. D'abord, c'est une pièce très personnelle, donc Gainsbourg a une place très importante pour moi. Ensuite, c'est une pièce sur les contrastes, sur les paradoxes. Pour moi, Gainsbourg est le reflet parfait du paradoxe et du contraste. Donc c'était clair qu'il avait la place, voire même, je le dis clairement, peut-être presque 50% de la pièce, c'est lui. Mais je crois qu'il faut aussi être honnête, parce que quand on danse et qu'on utilise de la musique, il faut laisser aussi la place à la musique, parce que sans elle, bien souvent, on n'est pas grand-chose. Même si j'aime ce silence, il est aussi présent dans la pièce, ce silence, la musique est aussi là en grande partie, quoi. Voilà, après pour répondre peut-être à François sur le décor qu'on peut croire des années 60, là on est déjà dans l'analyse. Je pense que c'est déjà aller trop loin d'essayer de dater. Vaut mieux essayer de le rapprocher d'un souvenir. Et ce souvenir vous donne la date. Et c'est ça qui est plus intéressant. Pour moi, j'ai... Bon, voilà, c'est ça. Moi en fait... ces analyses, je les ai faites pour moi. Je sais pourquoi j'utilisais chaque chose, pourquoi je les ai mis en relation les unes avec les autres. mais j'ai pas envie forcément de démontrer, de dire voilà, j'ai fait ça pour ça. Par exemple, là, je viens d'écouter toute la pièce de Cookie qui m'a l'air très, très intéressante, mais où l'analyse, en fin de compte, a une place extrêmement importante dans cette pièce.